chantait de bon matin quand on partait sur les chemins. À bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur votre émission préférée, il est l'heure Monseigneur, un lundi sur deux, de 13h à 14h sur Radio G 101.5. Aujourd'hui, on est en équipe restreinte, donc nous sommes avec Valentine, bonjour Valentine.
Bonjour.
Et Ricardo, pour vous servir.
Bonjour, ça dépend de quoi.
et donc moi-même, Raphaël, aujourd'hui, je suis le doyen de cette émission, enfin j'ai eu ma place de seigneur. Bon, comme à notre habitude, on va essayer d'animer l'émission autour d'une année mystère. C'est Valentine qui a fait la sélection musicale cette semaine et qui va nous dire quel est le premier tube.
Oui, donc il s'agit d'une chanson que j'aime beaucoup et que ma mère aime beaucoup aussi, qui s'appelle « Le coup de soleil » de Richard Cocciani.
À tout de suite.
Un coup d'amour, un coup, je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve de super belle, je dors plus la nuit. Je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je vois toute nue, j'ai des sapeurs. J'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis, quand tu t'en vas. Plus la nuit, mais tu n'es pas là, et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, de te mettre en face et visiter ton paradis. Je mets des photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je viens à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver, je veux que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis, dans ton endroit, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, peut-être en face, et visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide. Je veux faire le mur et je tombe dans le vide. J'ai tu m'attends à la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je mets du bateau dans mon quartier. Il fait très beau, on peut ramer. La mer est calme, on peut se tirer. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Et tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la tête en face, et visiter ton paradis. Et tu n'es pas là. Tu n'es pas là.
C'était Richard Cotiente avec Le Coup de Soleil. Très bon choix musical, ça nous donne un petit peu de soleil, ça fait du bien ça. Merci Valentine. Ricardo ?
Non mais surtout qu'aujourd'hui on a commencé à perdre le peu de soleil qu'on avait. Non, j'aime bien. Je ne connaissais pas.
Tu ne connaissais pas ?
Non.
Oh là là, bon. Parce que déjà t'as une petite idée de l'année.
Tout, non, vu que je ne connaissais pas la chanson, donc ça ne m'oriente pas du tout sur l'année.
Il va y avoir décennie. Des rebondissements.
La décennie ? Allez, je dis les années 80 déjà pour commencer, je sais pas.
Bon, ça sonne bien comme les années 80, t'as raison.
Ouais, hein, tu...
Mais
au pif.
Alors dans les années 80, dans l'année mystère, est-ce que tu as des événements ou des films marquants pour notre père?
Ouais, moi j'ai pas trop les événements parce que, petit indice, j'étais pas née à cette période-là, donc je connais pas trop, mais j'ai une petite sélection de films, tu sembles connaître normalement. On a la sortie de Shining, notamment.
Oui.
La sortie
très
de...
bon film d'ailleurs.
Très bon film, oui. Bah, je mets que des films de qualité, voyons. Voyons.
Je vérifierai tes chevilles à la fin de l'émission.
Il y en a un qui est... Il y a aussi des films français, bien entendu. Il y a La Boum, notamment.
La Boum.
Oui. Nous avons un film adapté d'une pièce de théâtre de Molière, L'Avare, avec Louis de Funès.
Louis de Funès.
Voilà. Sinon, on a un film The Elephant Man, qui
aussi,
est un peu plus triste que L'Avare.
Oui, mais très connu, oui.
Très connu, voilà. Et puis, nous avons aussi un énorme blockbuster, Star Wars 5, L'Empire Contre-Attaque.
86-87?
Non.
Non? Pourtant, t'as cité plein de films qui m'orientent, non si je...
Eh ben non. Hein? Non, t'es pas dans la bonne voie.
Ah oui. Non.
Bon, je verrai tout à l'heure. Ah, j'étais persuadé d'être... Shining, non? Shining n'était pas encore sorti.
Mais après, Shining, très bon film. Hein.
Ah oui, non, mais même tous les films que t'as cités, L'Avare, c'est un film très, 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 très drôle, je vais arriver à
Louis
le dire.
Il y a Louis de Funès aussi, je veux dire. Bah Louis de Funès fait beaucoup, en soi.
Bah oui.
Et puis, pour revenir pour Shining, la petite anecdote, c'est que Stephen King a détesté le film. Parce que c'est une très mauvaise adaptation du film, du livre en fait.
Du livre.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes et que, par exemple, il n'aimait pas le choix de Kubrick pour Jack Nicholson.
Ok.
Parce qu'il voulait quelqu'un de plus discret en fait, que Jack Nicholson fait un peu...
Un peu plus exubérant, oui.
Voilà, dès le départ, tandis que lui, il voulait faire quelqu'un de un peu monsieur tout le monde.
Après, il y a beaucoup... Enfin, moi j'ai remarqué en général, il y a eu de très belles adaptations en général de films au cinéma, de bouquins en film au cinéma, mais en général, on est toujours déçu quand on lit le livre avant de regarder un film, parce que évidemment dans un bouquin on a plus le temps de, l'auteur a plus l'attitude de mettre plus de choses, ça laisse plus place à l'imagination, chacun lit, imagine un personnage différemment, un décor différemment, et forcément comme je disais tout à l'heure, il y a plus de choses à mettre, que les films sont en format réduit, et en tout cas moi en général du livre au film je suis souvent déçu.
Ouais, et là tu as été déçu?
Non, alors moi je l'ai pas lu le bouquin, j'ai regardé juste le film, ouais. Donc je l'ai bien aimé le film.
Mais après, il faut savoir qu'il y a même des différences entre le livre et le film. Okay. Mais les deux sont un peu, il y a le même contexte, le même principe, mais c'est vraiment des choses qui sont un peu différentes. Par exemple, l'alcoolisme de Jack Nicholson est beaucoup plus accentué dans le livre que dans le film.
Ok.
Voilà, donc c'est des petits détails comme ça où ça donne, il y a des petites choses qui sont différentes. Ou par exemple, je crois que le labyrinthe n'existe pas dans le livre. Peut-être que je me trompe, parce que je n'ai pas non plus lu le livre, mais des critiques que j'avais vues, c'est que par exemple, le labyrinthe n'est pas présent dans le livre, ouais. Et qu'il y a d'autres choses à la place.
Ok.
Mais c'est...
Ça donne envie d'aller lire. Tiens, enfin, j'ai moins de choses à lire en ce moment, donc je vais peut-être me pencher là-dessus.
Bon. Alors, dans l'année mystère, moi j'ai un décès pour le cinéma qui va peut-être t'orienter. C'était le décès d'Alfred Hitchcock.
Ah oui, très grand réalisateur aussi, du coup.
Ah bah oui, très
les oiseaux d'Hitchcock.
Valentine, est-ce que tu connais des films de Hitchcock?
Ah oui, je connais de noms certains, donc La Cage aux Oiseaux. Je connais Psychose aussi, le plus connu, je pense.
Alors, La Cage aux Oiseaux ou Les Oiseaux? Parce que moi,
Oiseaux, désolé.
La Cage aux Oiseaux, je l'avais pas celui-là.
C'est La Cage aux Folles.
c'est de Hitchcock, c'est ça.
Les Oiseaux, oui, je connaissais le nom. J'ai vu Psychose et celui que j'ai vu, sinon, qui est moins connu, mais qui est quand même connu, c'est La Corde.
Je l'ai pas vu, La Corde. Pourtant, je crois.
La Corde, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre où en fait le synopsis, c'est pour prouver une théorie de Nietzsche comme quoi l'homme est fort ou bon, je ne sais plus trop la théorie, je ne me rappelle plus, j'avoue. Mais en gros, il y a deux amis qui décident de tuer quelqu'un avec une corde.
Pourquoi pas?
Voilà. Et ils avaient en fait invité des amis et leur professeur qui leur avait enseigné en fait justement les théories de Nietzsche à un dîner, et ils avaient mis le corps dans le coffre du salon.
Okay.
Et il est resté tout le long du film.
Ouais, c'est très
bon, bah voilà, c'était du Hitchcock, hein.
Voilà, c'est
très Hitchcock. Est-ce que Hitchcock a fait des films aussi joyeux? Est-ce que Hitchcock a fait,
non, c'est son genre de, c'est le cinéma, on va dire cinéma d'horreur à sa façon, enfin c'est plus ou je dirais horreur ou psycho horreur, genre si je dois
c'est une forme de voyeurisme, hein. C'est aujourd'hui on n'a plus de Hitchcock, on a de la télé-réalité. Je préfère encore Hitchcock quand même.
Je crois que quand même la télé-réalité, ils mettent pas quelqu'un dans des coffres.
Vu les oiseaux qu'on voit dans la télé-réalité, ils devraient peut-être les mettre les coffres, on les entendrait moins.
Bon. Dans la même année, bon,
non,
on a parlé d'un décès, il y avait une naissance aussi, Olivia Ruiz, une chanteuse.
La femme chocolat?
Oui, nos auditeurs peuvent connaître. Donc,
si une base suit Hitchcock, je dirais c'est un peu plus tôt que 86 tout ça. Je descendrai vers les années 82. 81, 82.
On le laisse mariner un petit peu.
Ouais,
hein.
On
va le laisser mariner un petit peu. Bon. Dans la même année mystère, on avait un grand chanteur français qui sortait un titre qui va parler à tout le monde, hein, je pense, parce que ça a été un des artistes français les plus vendus. Alors, on connaît Jean-Jacques Goldman.
Oui.
Eh bien, là, je vais te parler de Francis Cabrel, ouais, qui va écrire à l'encre des yeux de je ne sais qui. Voilà. Pour les miens, moi, les yeux sont pas bleus. Hein.
Ouais.
Bon,
on ne l'écoute pas, non, du tout.
Si, on va l'écouter.
Je l'adore, cette chanson.
Non, mais vraiment. À tout de suite.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. Même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir regardez, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté.
Yeux.
Donc c'était Francis Cabrel avec L'encre de tes yeux pour l'année mystère que Ricardo n'a toujours pas découvert précisément.
Non, j'avais dit 81-82. Non, il n'y a pas d'indice.
D'autres références, la mort de John Lennon.
Ah mais non, mais en plus de tout ce que vous me citez, c'est que des événements. Il n'y a que des films que je connais, ça aurait pu être des choses que je ne connaissais pas, des chanteurs que j'aime bien, des chansons que j'aime bien, mais je... Allez, 83, c'est mon dernier mot.
Il va falloir un autre nouveau mot, hein, quand même.
Si tu veux, je peux te donner des chansons qui sont connues internationalement sorties cette année-là.
Vas-y.
Qui
ne
sont pas du coup dans la section musicale. Donc on avait eu ABBA, qui est très connu à cette période, avec Guimé, Guimé, Guimé. Voilà, on a The Police avec Roxanne et Walking on the Moon.
Police, The Police, dans
vos papiers.
Oh oui.
Pardon.
Non mais Police, je pensais plus Police français, enfin le groupe avec Louis Bertillac.
Non, c'est pas le groupe français, non.
Non, ça m'étouffe pas. Hein.
Bon, on va le laisser encore mariner un petit peu. Avant de passer à la rubrique du pour ou contre de cette semaine, juste un petit événement de l'année mystère qui fait écho avec l'actualité malheureusement, c'est le début de l'embargo sur les céréales russes. À l'époque, ça s'appelait encore l'URSS. Donc voilà. Et c'est vrai que ça fait encore écho par la triste actualité qu'on connaît. Justement,
interdiction.
Le pour ou contre, alors on va pouvoir débattre tous les trois. Le pour ou contre de la semaine, c'est concernant la décroissance. Est-ce que vous êtes pour ou contre la décroissance?
C'est-à-dire, enfin, moi, qu'est-ce que tu mets dans décroissance? Je me suis posé la question quand j'ai eu le thème.
Décroissance.
Alors, en l'occurrence, je crois que nos systèmes économiques sont beaucoup axés sur une croissance.
Ok.
Voilà.
La décroissance économique. Ok.
Aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où la croissance continue n'est pas toujours possible.
Oui.
Donc, je pense à certains pays qui ont fait des expériences pour baser, on va dire, la satisfaction. Là, il y a l'indicateur du bonheur au Bhoutan. Enfin, il y a des pays où tout n'est pas basé sur la croissance économique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les uns et les autres? Est-ce que c'est quelque chose qui est soutenable ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit remettre en question?
Ça dépend jusqu'où on va, parce que moi, la croissance, le modèle pour moi, croissance économique, est basé quand même assez capitaliste. Donc, si la croissance économique, pour moi, il y a une répercussion réelle sur la population, c'est l'économie de la population, on va dire le pouvoir d'achat, tout ça. Enfin, si ça reste, comme on va dire, comme la bourse, où c'est que des chiffres, en fait, on dit le PIB a augmenté, normalement. On peut espérer qu'il y ait une répercussion, mais si c'est juste ça a augmenté, oui, à un moment donné, faut freiner la chose, ça, l'utilité. Et dans certains secteurs, comme le secteur immobilier, par exemple, où on parle de bulle immobilière qui puisse exploser, je ne sais pas si cette croissance est forcément liée, dans certains pays, comme la Chine, par exemple, où il y a une bulle immobilière, il y a eu tellement de croissance, de façon générale, hein, et aussi dans ce secteur-là, où ils avaient espéré que, vu qu'il y a une forte croissance, l'immobilier doit suivre. Il y a eu plein de constructions aujourd'hui, il y a plein d'immeubles qui sont à l'abandon, ils peuvent... Il y a le même phénomène en Corée du Sud ou dans d'autres pays. Oui, il faut, science sans raison n'est que ruine de l'âme, en fait. Donc, il va dans ce sens-là. Je ne sais pas si...
Et puis, après, je me dis aussi, j'ai du mal à me croire que la croissance pourra continuer indéfiniment. À un moment, ça va forcément stagner. C'est quelque chose qui, à long terme, en fait, me semble pas forcément possible. Genre, la croissance à l'infini, je ne suis pas sûre que ça existe.
Mais précisément, enfin moi, c'est ce qui me fait douter de ce système, et c'est pourquoi je pose la question pour ou contre la décroissance. C'est que sur le plan écologique, on sait très bien que c'est une catastrophe.
Hein. Oui.
Aller exploiter en continu des ressources pas toujours renouvelables ou pas l'échelle de leur exploitation, ça pose question. Les Trente Glorieuses, c'était dans une période où finalement la reconstruction était en cours et donc c'était nécessaire. Aujourd'hui, on va bientôt être 9 milliards, si je dis pas de bêtises, d'individus sur la planète. La croissance, elle est utile pour satisfaire les besoins individuels de chacun, mais est-ce que c'est toujours bon d'avoir une voiture volante, un téléphone à 2000 dollars, et puis non, je suis pas certain.
Après, il y a des endroits où il faut quand même de la croissance. Oui. Les pays en voie de développement, ils ont besoin d'un minimum de croissance. On ne peut pas dire ça de tous les pays du monde entier.
Après, oui, c'est vrai qu'il faut une jauge, mais on reste quand même, on va dire, c'est lié au capitalisme. Tout le monde en veut toujours, toujours plus. Et évidemment, comme, comme on disait tout à l'heure, l'écologie, tout ça, on use un petit peu la planète. Mais il faudrait aussi, comme tu disais, que ce soit adapté à certains pays, qu'on laisse certains pays, on va dire, se développer, et où d'autres pays où on a... Alors, moi, je base ça sur... pour pas faire trop long, je base ça sur la satisfaction des 5 besoins fondamentaux. Quand les 5 besoins fondamentaux sont satisfaits, pourquoi chercher plus, en fait? Et certains pays n'ont malheureusement pas encore l'éducation, se loger, se nourrir, tout ça, n'ont pas encore ça de façon optimale. Ceux-là, oui, il y a besoin d'une croissance, mais avec d'autres pays, comme le nôtre, on va dire, si je dis ça à d'autres personnes motivées, parce qu'ils vivent sous le seuil de pauvreté dans ce pays, mais on a vu que plus, quand les 5 besoins fondamentaux sont satisfaits, quand on cherche à l'ultra-croissance, on arrive à rentrer dans le plus, ou même, je ne sais pas comment expliquer sans choquer ceux qui vivent sous le, comme je disais, sous le seuil de pauvreté, mais on entre dans le trop. En fait.
Alors, moi, ça m'amène à la réflexion que j'ai rencontrée dans ma vie professionnelle, à savoir toujours faire mieux avec moins. Et qui part plutôt d'une bonne motivation. Aujourd'hui, on se retrouve à l'échelle nationale à devoir repenser notre schéma d'énergie, et on devrait reconstruire des centrales nucléaires pour fournir de l'électricité, alors que finalement, on devrait peut-être tout simplement apprendre à consommer moins. Et c'est là où j'ai dit que la décroissance a du sens, c'est-à-dire que plutôt que de construire 20 centrales nucléaires, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer avoir un besoin mieux régulé, isoler les logements, arrêter de produire des véhicules qui vont à 200 km/h, enfin... Tu sais ce qu'il en est avec ta deux chevaux.
Oui, c'est vrai que je suis pas le bon exemple. Je trie mes déchets, c'est déjà pas mal. Non, je
rigole. Ça veut dire que tu les tries pas tes déchets?
Non,
il rigolait pas là.
Non, mais je ça rejoint ce que je disais, science en conscience n'est que ruine de l'âme, c'est que ça rejoint aussi le fait que est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre confort et au surconfort parfois, parce que c'est pas seulement le confort. On a atteint un niveau où on veut toujours plus, par exemple, pour pas citer de marque, on achète quelque chose, on veut être livré le lendemain, et aujourd'hui on achète, des fois on est livré l'après-midi, on veut être toujours dans l'ultra plus, alors que parfois c'est des choses complètement dérisoires, ou même la surconsommation.
Tu parles des nouvelles générations là, Ricardo.
Oui, mais
moi, mes parents, ils commandent pas la veille pour le lendemain, hein.
Non mais c'est un petit peu ça. Et plus ça va, plus on veut toujours, on en veut toujours plus, et on touche forcément à l'écologie, on touche à plein d'autres domaines, on dénature un petit peu tout. Et est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre confort? Parce qu'on dit oui, il faut faire des compromis, mais aujourd'hui on dit qui est prêt à renoncer à son portable parce que, par exemple, tel secteur, on est obligé de ponctionner telle ressource dans tel pays, Ghana ou dans d'autres pays, pour produire nos portables. On est tous, quand on parle d'écologie, tout le monde est à l'aide, d'accord, hein, il y aura, à part certains réfractaires de Donald Trump, mais tout le monde a l'air d'être d'accord. Mais quand on demande maintenant de commencer des efforts, il y a souvent moins de partisans.
Je voulais juste revenir à ce que tu avais dit tout à l'heure. Pour toi, c'est quoi les 5 sur tes déchets, ouais. Non, plus sérieusement, je voulais savoir, pour toi, c'est quoi les 5 besoins fondamentaux? Parce que tu as dit ça tout à l'heure, mais tu entends quoi par là? Tu parles de la pyramide de Maslow? Tu parles de...
Bon, les 5 besoins fondamentaux qui ont été définis: se loger, se nourrir, se vertir, l'accès à l'éducation et à la santé. Voilà. Et en général, pour moi, c'est ces cinq besoins qui doivent définir. Et d'ailleurs, enfin, quand on est sorti justement sur le côté croissance ou pas, il a été prouvé que dès qu'une société satisfait ses cinq besoins, on passe à ce qu'on appelle aux besoins tertiaires, c'est-à-dire bon, mais ce qu'on appelle le confort, les transports. L'amélioration du mode de vie, de la qualité de vie, les loisirs. Et quand tout ça est satisfait aussi, et l'homme commence à s'ennuyer, malheureusement, l'oisiveté est meurt de tous les vices, bon, pas, ou l'ennui est meurt de tous les vices, on commence, en psychologie, ou même en sociologie, on remarque que c'est là où on élabore, les crimes commencent à être, où la perversion commence à être développée, parce que l'homme s'ennuie. Et l'homme qui s'ennuie, malheureusement, va souvent vers le vice, en fait. Ouais.
Bon, trop de confort,
On s'éloigne du sujet. Mais
après, là-dessus, pour revenir à ce que tu disais sur les besoins, faut aussi voir à quel moment, justement, tu passes de cette étape à l'autre, parce que ça doit dépendre des individus aussi.
Ah non, c'est sûr. Monsieur, ce que je dis, je généralise un petit peu, mais évidemment, il y en a qui sont consciencieux.
Par exemple, par rapport au transport, il y en a, ils ont besoin des transports.
Oui, non, mais c'est. Je parlais du côté tertiaire, je ne dis pas qu'il faut renoncer. Si, il y a besoin des transports. Mais après, je tombais plutôt sur l'ultra confort en fait, et en cela, oui, il y a besoin de décroissance. Ou est-ce qu'on peut même parler de décroissance, parce que je sais pas si dans le thème décroissance j'entends un retour en arrière. Moi, c'est surtout mettre une hola, quoi.
Oui, je pense que c'est plus une question de régulation,
voilà,
plutôt que de retour à l'arrière.
Voilà, c'est le mot.
Hein? Ok. Bon, on voit bien que la décroissance, en fait, c'est un sujet vaste qui peut être abordé de multiples manières, sous différents angles. Mais effectivement, ça interroge notre quotidien aussi, parce que on est tous consommateurs à des échelles plus ou moins impactantes pour l'environnement et pour la société. On va aller vers un nouveau morceau musical choisi par Valentine. Il s'agit de Trust antisocial. Bon, je ne sais pas si ça rejoint la décroissance. On va se faire saigner un peu les oreilles.
Ah ben oui, si, ça fait sens. Ben justement, pour lutter pour ceux qui protestent contre cette croissance exagérée, se mettent parfois en marge de la société.
Exactement.
Voilà, donc, c'était totalement voulu par rapport au thème que j'ai
fait. Antisocial.
Donc, on les écoute tout de suite. C'était pour l'année mystère qu'on dévoilera après à Ricardo, parce que j'ai pas l'impression qu'il est bien à l'aise aujourd'hui. Allez, à tout de suite.
Repose à toutes ces années de service. de tout faire, faut faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vice. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, perdons les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus.
Et donc c'était Antisocial par Truss. Bah, c'est pas la musique à laquelle on est habitué. Hein. C'est pas une bonne berceuse, j'ai l'impression.
Mais moi. Ça réveille. Bah, hein? Il faut. Après,
bah oui, après non. La petite sieste.
Ah non, non. En sortie de table.
Bon, Ricardo, est-ce que ça t'a orienté sur l'année mystère en question?
Alors, je dirais plus vers 80-81. Je descends.
Bon, Valentine.
C'est ce qu'on lui dit.
Oh, allez, bah, vas-y. Oh.
Allez, c'est 1980.
Ouais, tu vois. Ouais. Je suis descendu, je disais.
Bon, et c'est vrai que l'année 1980, Valentine n'était pas née.
Hein, voilà.
Moi, j'étais un minot.
Ça te rassure, moi non plus.
Ça fait drôle de dire ça, mais c'est vrai qu'on en parlait là pendant le morceau musical. J'étais un minot. J'habitais dans des quartiers, on va dire, populaires. C'était la fin de période punk. C'était une drôle de période. Je sais pas ce que ça évoquera à nos auditeurs, mais.
Renaud. Je cherchais, quand la phrase j'étais minot, je cherchais l'artiste qui. Le Mistral gagnant.
Voilà, exactement. Alors, pour donner des petits repères à nos auditeurs, c'était sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, dont on gardera la célèbre phrase en mémoire. Au revoir. et voilà, le fait est que c'était une année riche aussi en événements qu'on peut pas bien vous décrire parce qu'on le vivait pas, mais c'était la guerre froide, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'embargo contre les céréales russes. C'était une période très tendue sur le plan international.
Le début de la fin de l'URSS, du coup.
On avait encore des Minitel. On avait les TGV. Voilà, il y avait plein de choses en France qui se faisaient et voilà.
Est-ce que c'était la période des 33 tours ou c'était après ou avant?
On est en plein dedans puisque les CD, ça doit être vers 86 si je dis pas de bêtises.
Ouais, 86, 87 même. Je crois que c'était vrai. Ouais.
Mais les vinyles, ça revient à la mode en ce moment maintenant.
Bah, est-ce que ça a déjà quitté la mode? Parce que moi, je me suis toujours levé au son des vinyle de mon père ou même des 33 tours de mon père et les 10 îles ont toujours utilisé par exemple il y a toujours c'est quelque chose qui est perdu par exemple les DVD tout ça a très vite disparu des ménages aujourd'hui alors que souvent quand je vais chez des gens je trouve encore des lecteurs de disques
Oui.
Ouais, mais par rapport au CD, il y a quand même eu le côté CD à un moment qui a fait que
les films ont disparu.
Personnellement, on a un tour de disque chez nous, mais on n'avait plus de vinyle.
Alors moi j'ai encore les disques mais j'ai plus de tourne-disques. On devrait pouvoir s'entendre.
Yeah, ouais, c'est ce qu'il a dit.
Non mais après effectivement la technologie évolue. Alors moi je vais partager une petite expérience personnelle dans les années 90 pour le coup, on sort des années 80 mais il y avait rue Saint-Julien à Angers un établissement qui s'appelait le Saint-Julien, un bar et dedans il y avait toutes sortes de phonographes, de lecteurs de disques. Et moi, j'ai souvenir d'avoir écouté des chansons originales improbables du Édith Piaf, de Mireille Mathieu, et dans des versions vraiment très insolites. Et j'ai souvenir de disques, de phonographes, des formats qu'on connaît plus du tout aujourd'hui, des disques de cire. Et, et même ils avaient un lecteur, c'était pas des disques mais un cylindre, donc c'était vraiment très très improbable et c'était un vrai plaisir d'aller dans ce lieu où il y avait des pièces de collection quoi.
Ah, c'est dommage que ça ait disparu.
Je pense que c'était une fin d'activité, que c'est devenu une collection privée pour le coup, mais c'est vrai que c'était un lieu en dehors du temps. Voilà.
C'était je prends des pincettes parce que peut-être que je vais dire des bêtises, mais il y avait, je crois que c'était en URSS, peut-être que je dis des bêtises, où il y avait un contrôle sur la musique et il y avait quelqu'un qui avait commencé à enregistrer des musiques sur des radios médicale.
Oui.
Et ça pouvait marcher.
Oui, non, mais le système de gravage du son sur les disques, c'est quelque chose, on se demande comment ça marche, c'est très archaïque, hein, c'est juste, c'est vraiment une gravure, comme si on gratte sur du mur en dessinant, en écrivant, en fait. Et on peut graver sur, par exemple, sur du verre, par exemple. De la musique sur du verre.
Et ça marche ?
Oui, oui, oui.
Bon, c'est vrai que si ça marche sur des radios médicales, ça peut bien marcher sur du verre.
Ce Ricardo a vraiment des loisirs insoupçonnés. Hein.
On s'occupe comme un peu. Hein.
Bon, ça, je ne savais pas dans ce créneau-là, la faïence.
Je pensais mixer même avec Hitchcock, peut-être graver sur des corps qu'on met dans le salon, c'est ça ? C'était ça dans ton film ?
Joker. Bon, on va écouter tout de suite alors, l'enregistrement de la chronique de Jean-Jacques, qui n'est pas avec nous cette semaine, et puis on s'en retrouve tout de suite après. Il s'agit de l'enregistrement sur les prestations de la fibre Internet. Alors, tous les seniors ne sont pas connectés, on le sait, mais c'est devenu une commodité presque indispensable aujourd'hui pour beaucoup de démarches. On l'écoute et on se retrouve tout de suite après.
Télécommunications. La fibre en litige. Les réclamations de clients en matière de télécommunications portent désormais beaucoup sur l'installation ou le fonctionnement de la fibre. La proportion est même très supérieure à la part de marché de cet équipement, en plein essor, mais encore minoritaire chez les abonnés. Pour le médiateur des télécommunications, la fibre occupait 30% des litiges soumis en 2021. Il a doublé en 2 ans, 15% en 2019. Ce volume dépasse désormais celui des litiges provenant d'abonnés non équipés en fibre optique. Pourtant, le nombre d'abonnés n'a pas augmenté dans la même mesure. À vrai dire, l'équipement accéléré avec la fibre dans certaines zones s'effectue dans un grand désordre. Près de la moitié des réclamations sont la conséquence soit d'une mauvaise configuration dans l'immeuble ou la voirie, soit du fouillis dans les armoires de raccordement. Le reste porte sur des travaux d'installation au domicile, mal faits ou bâclés. L'explosion des contentieux de cet équipement ne s'explique donc pas seulement par le plus grand nombre de foyers raccordés. L'essentiel tient à la sous-traitance avec des techniciens peu ou mal formés, soumis à des cadences industrielles ou démunis devant un défaut de configuration. L'autorité de régulation des télécommunications, ARCEP, a été alertée et surveille depuis les résultats des principaux fournisseurs d'accès. Ce n'est plus un seul opérateur en monopole qui est chargé du déploiement de la fibre, comme ce fut le cas du réseau téléphonique. Il ne s'agit plus d'un service public au sens strict, mais d'un équipement public confié aux grands fournisseurs comme Orange, SFR, Free ou Bouygues Telecom. Leurs objectifs quantitatif devrait désormais être complété par une plus grande exigence de...
Bon, merci Jean-Jacques pour cette chronique. Ricardo, Valentine, vous, la fibre, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui ? En quoi ça vous est utile ?
Indispensable.
Ah bah oui, c'est très utile, ça c'est sûr.
Ouais, ça sert surtout à regarder les choses. Olé, olé, c'est... Non, je rigole. Non, c'est indispensable, complètement, oui. Alors,
moi, j'ai envie de dire, j'entends souvent des seniors dire « Mais vous n'avez pas besoin de tout ça. » Moi, je voudrais juste dire que c'est une évolution des télécommunications et que effectivement, ça peut être utile à certains et inutile à d'autres.
Oui, ça dépend de nos usages, mais Internet en global, c'est indispensable.
Fut un temps, les correspondances passaient par des pigeons voyageurs. Après, il y a eu des porteurs, le facteur, il y a eu le télégramme, il y a eu le téléphone, il y a eu le fax, il y a eu le Minitel, et maintenant, effectivement, l'Internet, c'est un outil de télécommunication qui permet d'avoir pratiquement les informations de manière instantanée, et c'est un petit peu le plus par rapport au passé. Et donc, c'est vrai que cette instantanéité dans la communication, c'est un peu, aujourd'hui, une valeur ajoutée, ce qui permet aussi d'avoir une idée plus claire, dans le vrai comme dans le faux. Hein, on voit le complotiste, les gens récalcitrants, discuteront, on n'arrivera pas à les convaincre, mais ça permet aussi d'avoir une vérité sur l'information instantanée.
Alors, pas que l'information, parce que bon, après, mais c'est sur tout usage. Aujourd'hui, on parlait de musique, ça permet d'écouter une musique plus fluide. Alors, pour ceux qui sont un peu cinéphiles comme moi, voilà, ça a donné naissance à beaucoup de plateformes de streaming où aujourd'hui, on peut regarder facilement de façon générale, tout usage. Après, pour rejoindre ce que tu disais, moi je dis une avancée technologique. Bon, c'est tant que ça ne dénature pas ou ça détruit, parce qu'on peut avoir, si on parle de décroissance, on peut avoir le débat sur les serveurs et tout ce que ça le désastre écologique que ça peut être. Mais le progrès en lui-même, toute invention est souvent neutre. C'est l'usage que l'humain en fait après qui est problématique. Comme on dit, la bombe atomique n'a pas été inventée pour faire la guerre, par exemple. Non. Donc après, on l'a utilisé pour faire la guerre. Mais pour moi, c'est une avancée technologique et il le faut. Ouais. Ça relie les peuples.
Ouais, c'est même pratiquement devenu indispensable aujourd'hui, parce que pratiquement tout se fait via Internet.
Bon, après, c'est relatif, mais pour moi, c'est indispensable.
Donc, on est d'accord, c'est utile. Le tout, c'est d'en avoir un usage raisonné et puis de conserver l'esprit critique par rapport à tout ce qu'on peut nous balancer comme information. Pas toujours utile, d'ailleurs.
Ouais, c'est ce qu'on dit. C'est Orelsan qui dit tout ce qu'on, si c'est marqué sur Internet, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Donc, il faut toujours garder ça en tête, c'est tout.
On va enchaîner avec le nouveau morceau musical sélectionné par Valentine. Il s'agit de celui de Michel Berger. Le titre, rappelle-nous.
C'est la groupie du pianiste.
On l'écoute tout de suite. Merci.
Elle passe ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir. Du pianiste. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la copie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Passe sa vie à l'attendre pour un mot, pour un geste tendre. La groupie du pianiste. Devant l'hôtel, dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste. La groupie du pianiste. Elle le suivrait jusqu'en enfer, et même l'enfer, c'est pas grand chose. Sur terre, et elle y pense dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore, c'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Sur son sourire, elle a les droits sur ses désirs. La copie du pianiste. Elle sait rester là sans rien dire, pendant que lui joue ses délires. La copie du pianiste. Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier, en rêvant qu'il va l'emmener passer le reste de sa vie, simplement à l'écouter. Elle sait comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe. La groupie du pianiste. Mais Dieu que cette fille prend des risques, amoureuse d'un égoïste. La groupie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air. Sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre
C'était donc la groupie du pianiste par Michel Berger. Et on va écouter la chronique musicale par la magie de la technique.
De Internet.
Exactement, Jean-Jacques m'a envoyé sa chronique, donc on va l'écouter et on réagit tout de suite après.
Quand j'ai commencé à entendre, et comme les Dupont D et Dupont T dans Tintin, je dirais même plus, quand j'ai vraiment commencé à écouter sérieusement chanter Yves Montand, c'est en écoutant une émission à la radio. La radio, c'est important. Une émission, disais-je, de Pierre Bouteiller sur France Inter, une fin d'après-midi, où ce grand amateur de jazz et bon pianiste avait décidé, ça semblait important pour lui, de nous faire découvrir une des facettes un peu oubliées de Montand, qui se consacrait depuis pas mal de temps presque uniquement au cinéma. Et d'ailleurs, Valentine, tu connais Yves Montand ? Oui, c'est vrai que dans le génial générique de cette magnifique émission de radio que le monde entier nous envie, on entend avec ravissement quelques mesures de « à bicyclette ». Mais là, c'était avant. Il y avait pas mal d'années qu'il n'avait rien sorti, sans monter sur scène. Et donc, est sortie cette galette qui met extrêmement bien en évidence sa qualité d'interprète de premier plan. Ses modulations dans la voix qui vont du plus grave au plus haut. C'est, on l'a bien compris, exceptionnel de sensibilité. Et sa présence scénique de showman à l'américaine en ont impressionné plus d'un. En particulier Michel Sardou, qui, d'une certaine manière, remercie Montand de l'avoir défendu lors de ses problèmes rencontrés lors de ses concerts, notamment en Belgique, où des pancartes posaient la question « Faut-il brûler Sardou ?» Donc Sardou souhaitait ardemment, et le faisait savoir, que Montand remonte sur scène. Et il le fera à Montand, l'année suivante. Ce disque est composé de chansons très inspirées par des poètes du temps passé, Aragon, Baudelaire, Prévert, mais aussi de grands paroliers et grands compositeurs, Jean-Loup Dabadie, Michel Legrand, David McNeil, Duke Ellington, d'où son titre « D'hier et d'aujourd'hui ». La pochette montre un Montand rigolard, vêtu d'une gabardine. L'addition des textes contre la guerre, la dictature, l'oppression sous toutes ses formes, avec des mots durs et violents, tels que dans l'addition où s'empile, tel un inventaire à la Prévert, justement.
Plus un violon, la vie est tout ce temps cassé que l'on appelle le passé. Plus l'avenir en dit le son de nos prophètes bénévoles, plus une bombe sur une école. Et les oiseaux qui chantent après, l'avion ne l'a pas fait exprès.
Hollywood. Sur un rythme nerveux de folk country signé David McNeil, fils du grand peintre-graveur Marc Chagall, et ayant écrit pas mal, entre autres pour Julien Clerc et Alain Souchon. Chanson pleine de références à la culture américaine, littérature et cinéma, ambiance, saloon et rigolade.
Deux amants dans la cuisine pour ne pas qu'ils regardent. En deux mois, ils jouaient tout Gershwing sur des verres à moutarde.
Les bijoux, poème de Charles Baudelaire, tiré des fleurs du mal et mise en musique par Léo Ferré, accompagnement très cristallin, avec la voix d'Yves Montand très précise et fluide.
Calme et solitaire, elle s'était assise. Je croyais voir unis par un nouveau dessin les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin sur ce teint fauve et brun. Le phare était superbe.
Il casse-tête. Sur un texte de Gébé, grande figure du journal Harakiri, puis de Charlie Hebdo, sur un air de tango, référence évidente aux dictatures sud-américaines, des images de violence à l'humour bête et méchant.
Qu'est-ce que j'ai dit déjà ? Travailleurs, immigrés, philosophes, résistants cachés, dissidents notoires, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà ? José Abdel Argentino, Arabica Yan Patochka, ou bien alors bébé phoque.
Enfin, Dansons la rose, ou Rose de Picardie, mélodie ancienne très connue, chantée admirablement, tout en nuances et décontractions à la mode des grands crooners américains, une jolie valse pleine de romantisme.
Et puis surtout, c'était toi et moi, ces deux mots ne vieillissent pas. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas. Tous les deux amoureux, nous avons dansé sur les roses de ce temps-là.
Bon, c'était donc Yves Montand. Ça vous évoque des souvenirs les uns et les autres?
On n'est pas nés, mais... Enfin, moi, personnellement, je n'étais pas né.
Non, dans la sélection musicale, effectivement, les noms ne me parlaient pas, mais effectivement, le Dansons la rose, elle est
très connue. Connu.
Voilà.
Connu,
ouais. Et ça donne envie de retourner dans des balles guinguettes, tiens. Où,
Ça va être bientôt la période, hein.
Et oui.
À Poigné, la guinguette de Poigné.
Donc, si le cœur vous en dit, effectivement, le samedi ou le dimanche, il y a beaucoup de guinguettes qui sont ouvertes. C'est l'occasion de se faire plaisir pour la bouche et puis de faire bouger les pieds un petit peu, quoi. On va écouter le dernier morceau musical de la semaine, de l'année 1980, qui fait écho un petit peu à la chanson de Michel Berger, Valentine.
Oui, c'est France Gall et c'était Il jouait du piano debout.
Bah oui, pour sa groupie, c'était normal. Hein. On se retrouve tout de suite après.
Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats font garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Il n'y a que pour sa musique qu'il était patriote. Il serait mort du genre d'honneur, terre de l'or. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essayer de vivre, essayer d'être heureux, ça vaut le coup. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux, et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Ooh.
On arrive au terme de cette émission. Merci à vous, Ricardo et Valentine. On salue Marc, à qui on souhaite un prompt rétablissement, hein, puisque le Covid est passé par là. On salue aussi Josiane et puis Jean-Jacques. On espère les retrouver avec nous dans 15 jours. Et puis, est-ce que vous avez des informations à transmettre à nos auditeurs?
Qui passent une bonne journée et qui mangent des chocobéennes parce que c'est bien meilleur que les princes et les pépitos.
Bon. Avec modération.
Alors moi, j'ai juste une invitation, c'est déplacez-vous pour voter, allez glisser une enveloppe dans l'urne, même si vous savez pas pour qui vous allez voter, je pense que se déplacer c'est toujours bon.
Oui, c'est j'avais oublié que c'était l'émission des élections, et oui, non mais comme je l'ai dit la dernière fois, allez voter, parce que si vous ne faites pas le choix, les autres ne pas choisir, c'est choisir aussi, parce que les autres feront le choix pour vous et vous serez obligé de les subir. À moins de déménager sur une autre planète, mais ou dans d'autres pays.
T'as les adresses?
Des adresses
En autre pays, une autre planète.
D'autres pays ou d'autres planètes. Alors j'ai quelques relations ces derniers temps avec Neptune, mais bon, on négocie encore la délocalisation.
Bon, je crois que c'est Jean-Yann qui disait, moi, à la prochaine guerre mondiale, je file à l'étranger. On est sur le point d'y arriver là. Bon, je vous souhaite à tous une bonne semaine, et puis on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Il est l'heure, Monseigneur. Merci Valentine.
Merci.
Merci Ricardo. À bientôt.
À bientôt.
À bicyclette.
Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle. On se sentait bon chez les ailes. À bicyclette.
Radio G 101.5 FM.
Vous êtes chanteuse, chanteur,